Bienvenue à un nouvel épisode d'Ensemble à la Cour, un podcast de l'organisme juridique Hoche Légal animé par moi, Camille Lavoie-Rancourt. Ensemble, on démystifie une conversation à la fois, la procédure d'un recours devant les tribunaux, le tout pour mieux vous aider à agir seul à la Cour. Dans cet épisode, on va passer étape par étape les recours au tribunal administratif du logement, aussi communément appelé le TAL. Se loger, c'est probablement l'une des facettes les plus importantes de notre vie. C'est pourquoi, lorsqu'une problématique juridique survient quant à notre logement, que l'on décide de s'adresser au TAL, il est important de bien comprendre comment s'y prendre en termes de procédure, surtout si l'on prévoit agir seul. Aujourd'hui, pour vulgariser toutes les étapes procédurales au TAL, on a le plaisir de recevoir Maître David Searle, avocat au Centre de justice de proximité de Grand Montréal et chargé de cours à l'UQAM et à l'Université McGill, qui est l'un des experts du propos du droit du logement au Québec. Ensemble, on va tenter de mettre en lumière les éléments déterminants de la progression d'un dossier au TAL. Mais avant d'entamer ma discussion avec Maître Searle, je tenais à vous partager des petites mises en garde en lien avec les propos qui seront échangés au micro. Premièrement, il est important de savoir que toutes les informations juridiques évoquées aujourd'hui ne constituent en aucun cas des conseils ou des avis juridiques. De plus, aucune opinion jurisprudentielle ne sera exprimée au courant de l'épisode et surtout, sachez que toutes les informations juridiques qui sont abordées reflètent le droit en vigueur au moment de l'enregistrement de cet épisode. Pour avoir accès aux liens menant aux diverses ressources qui seront mentionnées au courant de l'épisode ou pour en connaître plus sur les services offerts par Hoche Légal, on vous invite à consulter le site Internet de l'organisme hochelegal.ca, en plus de vous abonner à la page Facebook et au compte Instagram de l'organisme @hochelegal. Bon épisode! Merci, David, d'être avec nous. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on puisse faire plus en connaissance, parler un peu de ton expertise dans le droit du logement. Fait que j'aimerais savoir, depuis combien de temps tu travailles en droit du logement?
Bien, ça va faire environ une dizaine d'années, honnêtement. Donc, avant de devenir avocat, j'ai travaillé un peu à la clinique d'information juridique à McGill. Et par la suite, je suis rentré à l'aide juridique pour faire mon stage du barreau. Et ça fait 6 ans que je travaille au Centre de justice de proximité du Grand Montréal.
Puis, est-ce que, alors que tu étais à l'aide juridique, est-ce que tu as vu beaucoup de droit du logement? Est-ce que c'est ça qui t'a donné la piqûre?
Oui, absolument. Bien, en fait, on faisait environ le tiers de mon stage en droit du logement et encore au centre, là, ça a continué. Mais en fait, le droit du logement nous choisit quand on travaille près du public parce que c'est un enjeu qui est à la base de tellement d'enjeux que vivent les gens au quotidien.
Bien, ça parle un peu de la manière que tu conçois le droit du logement. C'est quelque chose qui est fondamental. Est-ce que tu pourrais plus nous en parler de c'est quoi pour toi le droit du logement?
Oui, bien, le droit du logement, en fait, on peut le décrire de différentes façons. Pour moi, quand on parle droit du logement, j'ai en tête les relations entre un propriétaire ou locateur en langage juridique et un locataire. Et donc, ces deux personnes-là partagent des responsabilités et des obligations par rapport à des droits par rapport à un appartement qu'on appelle un logement. Donc, c'est ça, le droit du logement.
Au final, c'est un lieu collectif qui unit deux personnes ou un lieu qui unit des personnes puis qui crée des obligations.
Oui, puis qui fournit un toit.
Ouais.
Et une place qui fait bien, on espère, on est bien dans cet espace-là aussi.
Fait qu'on est bien d'y vivre, mais des fois, il peut y avoir des conflits. Puis quand il y a des conflits, souvent, notre réflexe, c'est de se tourner vers les tribunaux. Donc, le reste de l'épisode, j'aimerais qu'on aborde en 3 étapes avant d'aller au tribunal, devant le tribunal et après, une fois qu'on a une décision. Donc, on passerait maintenant au moment d'aller au tribunal, donc les étapes qui nous mènent devant le tribunal administratif du logement ou le TAL de son petit nom. Donc, on se prépare à aller au tribunal. Une personne qui se représente seule veut un peu monter son dossier, mais où est-ce qu'elle dépose sa demande? Une fois qu'elle sait, bon, j'ai vécu une injustice, où est-ce que je dépose ma demande?
Oui, puis en fait, une difficulté qu'on va rencontrer dans ce genre de situation-là, on pense, j'ai un problème avec mon logement, je vais m'adresser à la régie du logement, qui maintenant s'appelle le tribunal administratif du logement depuis 4-5 ans. Et on peut tenter d'appeler le tribunal maintenant depuis le mois d'avril 2024. si on laisse notre numéro de téléphone, ils nous rappellent. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, on peut prendre rendez-vous par téléphone pour se rendre au tribunal. On peut aussi prendre un rendez-vous en ligne et ou, s'il y a urgence, on peut se présenter en personne. Mais règle générale, c'est juste dans les cas urgents là, qui vont permettre aux gens d'être vus par un préposé pour ouvrir une demande là, en personne. Et on peut le faire en ligne aussi.
OK, donc, c'est pas juste de se rendre sur les lieux du tribunal et de déposer une demande, c'est qu'il faut prendre un rendez-vous pour même avoir l'occasion de déposer une demande. On peut pas faire ça à l'improviste.
Oui, malheureusement, il y a quelques défis, je te dirais, en matière de monter la première étape, là, que ce soit prendre ce premier rendez-vous-là. Si on a un peu de difficulté avec Internet ou juste appeler, ça peut être difficile d'avoir ce premier rendez-vous-là. Ou si le site web n'est pas exactement le plus, disons, user-friendly là, ouais. Au monde. Donc, ouvrir la demande en ligne, pas si simple que ça non plus. Donc, ça peut être vraiment intéressant dans ces étapes-là d'aller voir son comité logement, le centre de justice de proximité pour voir okay, comment je fais au juste. Parce qu'on peut se perdre un peu dans les dédales.
Bien, c'est sûr. Puis, en plus, pour déposer une demande, encore faut-il que le dossier soit prêt, donc que j'ai tous les documents qui sont nécessaires, que j'ai une idée de ce que je veux demander aussi au tribunal. Qu'est-ce qu'ils vont me demander au tribunal pour avoir un dépôt d'une demande, là, donc pour dire au tribunal, j'aimerais qu'on m'entende?
Bien, en fait, c'est une excellente idée de s'informer avant de se rendre parce que le défi, là, c'est de dire, bien, moi, je vis telle chose et on vous reçoit, on dit, OK, bien, on vous essaie autant qu'on on puisse le faire, mais idéalement, on a une idée de, dans telle situation, je peux obtenir telle sorte de résultat. Et d'y aller déjà en amont en se disant, OK, bien, moi, je veux y aller et obtenir, par exemple, des corrections dans mon logement, une compensation monétaire, des ordonnances quelconques. Donc, je pense que c'est vraiment une idée intéressante de parler avec un être humain qui se connaît dans le domaine pour avoir une idée en amont de ce que je veux aller chercher. Cela dit, tu sais, les préposés du tribunal sont quand même les professionnels d'ouverture de demande, donc sont quand même capables de faire ce qu'on leur demande de faire.
Mais au final, leur aide va se limiter à ouvrir la demande. Ils ne donneront pas de conseils sur le droit du logement. Ils ne nous expliqueront pas si on a vraiment un recours.
Oui. Donc, sans faire prendre de position trop tranchée, là, disons que le tribunal a une mission d'information. Mm-hmm. Donc, comme plein d'organismes, ils informent le public. Maintenant, je vous dirais que cette mission-là est vraiment la mieux exercée quand on leur demande des questions vraiment comme... pas trop large. Tu sais, je te donne un exemple, ça sort. Une personne là, qui vit un gros problème dans son logement, là, ça tombe dans tous les côtés, il ne sait pas plus vers où se tourner. Aller voir un préposé qui connaît les règles de base, c'est peut-être pas la meilleure façon de vraiment bien monter son dossier. Donc, par contre, sont tout à fait formés et compétents de pouvoir dire, ben oui, le premier à la signature du bail, on peut juste vous réclamer le premier mois de loyer. Donc, il faut faire preuve d'un peu d'esprit critique là, quand on se tourne vers le tribunal, sachant que c'est pas des avocats ou des avocates là ultimement. Donc, il reste pas moins que même si c'est un droit de proximité ou c'est de Monsieur, Madame, tout le monde, ben il reste pas moins que ça peut être des enjeux vraiment complexes. Et qui mérite d'en parler avec quelqu'un qui a vraiment de l'expérience dans ce domaine-là.
Puis, ça m'amène un peu, si on parle plus généralement, comment est-ce qu'on peut savoir, nous, que notre demande doit être déposée devant le tribunal administratif du logement? Qu'est-ce qui relie un peu toutes les demandes qui sont entendues devant ce tribunal-là?
À la base, on peut se donner comme règle que quand il y a un conflit entre des locataires et des propriétaires, on est devant le tribunal administratif du logement. Il y a des exceptions. Et honnêtement, ces exceptions-là sont parmi les enjeux juridiques les plus complexes. Mm-hmm. Ça peut être assez embêtant, là, des fois. Parce que des fois, par exemple, si c'est un enjeu où on fait de la diffamation, le propriétaire se moque de son locataire à fond la caisse, répand des mauvaises rumeurs à son égard, bien, le locataire, il ne peut pas se tourner vers le tribunal administratif du logement, c'est juste la Cour du Québec ou la Cour supérieure qui peut entendre cette cause-là. C'est des exceptions. Règle générale, c'est le tribunal administratif du logement.
Donc, si ça implique le louage ou le contrat qui lie un locataire, donc le propriétaire et un locataire, la personne qui loue un logement, on peut assumer que ça serait devant le tribunal administratif du logement.
Oui, puis j'irais une étape plus loin et je dirais que tant des fois, on le voyait un peu plus par le passé, mais il peut avoir une certaine résistance à penser, bien, on a beaucoup de gens de nos jours, malheureusement, qui doivent partager un logement avec des tiers parce qu'on n'est pas capable de payer le loyer, des colocs, sous-locataires. Et dès que même si c'est entre un locataire et un sous-locataire, un locataire et un colocataire, et vice-versa, ça aussi, c'est de la compétence du tribunal administratif du logement parce qu'on parle d'un espace pour lequel on a le droit de rester là en échange de l'argent.
OK, parfait. Donc, s'il y a des chicanes, par exemple, sur le fait qu'un coloc ne paye pas le loyer...
Absolument, compétence du
tribunal administratif du logement. Parfait. Donc, la majorité des dossiers étant devant le tribunal administratif du logement, je propose que pour la suite, on parle vraiment de la procédure du tribunal administratif du logement. Donc, moi, j'aimerais qu'on parle juste un peu de la prescription, parce que c'est nébuleux un peu, c'est difficile à comprendre, puis pas tout le monde sait que des fois, il y a un droit de recours, il y a une date limite ou comme une date de péremption à ce recours-là.
Oui, donc, en tant que personne qui travaille dans un centre de justice de proximité, j'ai mes drapeaux rouges, mais je me dis, oh, prescription. Donc, quand on parle de prescription, on parle de la capacité d'ouvrir une demande dans un délai fixe et... donc, dans le fond, si par exemple, si je tombe dans l'escalier de mon logement, malheureusement, qui est mal entretenu, puis je crois que c'est la faute du propriétaire qui aurait dû payer pour un déneigeur, bien, mon recours pour le poursuivre, c'est 3 ans de cette chute-là. Et si j'attends 3 ans et 5 jours, bien, et je le poursuis, mon propriétaire... Il trouvera ça bien drôle parce qu'il pourra soulever une objection qu'on appelle, dire « ben moi, je ne peux pas me faire poursuivre parce que ça fait plus de 3 ans. » Et malheureusement, pour ce locataire-là, ben, le recours sera rejeté tout simplement. Donc ça, c'est la règle de base de 3 ans. On le voit souvent en matière de réclamation monétaire, mais on a beaucoup d'autres délais qui rentrent en jeu pour différents... type de phénomènes qui peuvent avoir lieu dans un logement.
C'est ça. C'est qu'au final, en fonction de l'injustice qu'on a l'impression d'avoir vécue, il peut y avoir un délai d'expiration qui est différent. Donc, c'est pas toujours 3 ans. Il faut vraiment s'informer sur, bon, moi, l'injustice que j'ai l'impression d'avoir vécue, c'est ça. Quelle est sa date d'expiration? Puis à partir de quand elle commence à courir? À partir de quand, à partir de quelle date on commence à la faire compter?
T'sais, le plus court, le délai le plus court, c'est j'ai reçu un avis d'expulsion de mon logement suite à un jugement. J'ai 5 jours pour le contester. Un autre, j'ai un jugement que je suis pas d'accord. J'étais absente de ce procès-là. J'ai 10 jours pour demander que ça soit réouvert avec une excuse pour mon absence. Donc, ça peut être vraiment très court, tout comme ça peut aller jusqu'à 3 ans en matière générale.
Puis, supposons qu'on se rend compte, bon, mon injustice, mon recours, il est prescrit. La date a été dépassée. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tout abandonner, laisser tomber, ou est-ce que ça vous peut valoir la peine de continuer le processus en ayant à l'esprit que, ça se peut qu'on me dise, ben non, t'as plus de recours?
Bien, effectivement, je veux dire, il n'y a rien qui empêche d'entamer des poursuites quand même. Le tribunal, en fait, depuis février, le tribunal administratif du logement a le pouvoir, par contre, de soulever la prescription qu'elle n'avait pas avant.
OK.
Il ne reste pas moins qu'une personne qui admet vous devoir de l'argent ou reconnaît sa responsabilité, bien là, on peut faire recommencer ce délai-là, ce fameux délai en matière de réclamation monétaire. Donc, tu sais, le droit, c'est compliqué. Puis dans le doute, il faut aller consulter comme en santé. Là.
Quitte à se représenter seul, juste sur la question, si on a des questions sur la prescription, ça peut-être être intéressant d'aller poser des questions à un avocat ou une avocate.
Oui.
Puis là, supposons qu'on se rend compte, bon, finalement, bon scénario, le recours est encore valide, même qu'il me reste peut-être 2 ans encore... Quelle est la première étape? Normalement, on dit ou on suggère d'envoyer une lettre de mise en demeure, mais est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe en droit du logement?
Oui, bien, en fait, c'est malheureusement, c'est du cas par cas, mais si on prend le cas typique, donc moi, je vois beaucoup de gens qui viennent me voir, soit dans 2 cas de figure, soit parce qu'on essaie de leur forcer de quitter leur logement. Et là, c'est plus souvent le propriétaire qui a les démarches à prendre. sauf exception. Mais sinon, quand pour les locataires, le deuxième cas de figure le plus commun, peut-être encore plus commun, c'est « je vis des problèmes dans mon logement ». Et dans ces cas-là, vu qu'on a, je veux dire, tout le monde qui est locataire le sait, là, on ne veut pas non plus avoir une relation terrible avec le proprio. Donc, la première chose à faire quand on a un problème, c'est de, autant que possible, de communiquer avec l'autre partie. Et ça peut être... Moi, j'encourage vraiment d'avoir des communications verbales où on est capable de s'entendre, de se comprendre, quitte à faire un suivi écrit par après, dire merci beaucoup pour votre compréhension, merci de vos engagements. Mais effectivement, après un délai qui peut être plus ou moins court, là, ben, c'est à nous d'envoyer une mise en demeure. Puis on peut expliquer c'est quoi, là, mais une lettre essentiellement, suivie de d'autres démarches juridiques, que ce soit une plainte à la ville ou encore une ouverture d'une demande au tribunal.
Donc, si je récapitule, là, pour l'instant, ce qu'on s'est dit, c'est première étape, ce serait vraiment de regarder est-ce que mon recours est encore valide. Puis ensuite, une fois que je m'en suis rendu compte que mon recours est valide, d'aller discuter avec le propriétaire et peut-être d'envoyer une lettre de mise en demeure. Puis c'est quoi ça, une lettre de mise en demeure?
Oui, donc une mise en demeure, c'est une lettre, comme tu viens de le dire. Et là, dans le fond, c'est une lettre qui comprend... Moi, je le dis, ça se tient en une main. On a une description d'un problème. Mm-hmm. C'est quoi qu'on veut? Donc, je te réclame de faire ci, ci, ça, de me donner telle, telle chose. La phrase « je vous mets donc en demeure de » faire ci, ci, ça, me donner telle, telle chose, dans un tel délai, donc donner un délai raisonnable, 7, 10 jours, 24 heures dans des cas extrêmes, et de clairement indiquer, peut-être j'ai mal monté mes doigts là, mais clairement indiquer, oui, c'est un point là, de clairement indiquer que à défaut de satisfaction à mes demandes, bien, je me réserve le droit de vous amener en cours. Mm-hmm. Et ça, dans le fond, on l'envoie ça par une façon qu'on a la preuve que ça a été reçu. Donc, courrier recommandé, c'est la norme. Je recommande aussi de seconder avec un courriel, là, si on a cette façon de communiquer.
Ah oui, d'avoir une preuve que c'est reçu.
Exactement, doubler les chances de communication.
Donc, pas le laisser dans la boîte aux lettres, par exemple, du propriétaire s'il habite en dessous, de la propriétaire qui est à côté.
Oui, ça vaut les 12 $ là, d'envoi par courrier recommandé pour avoir la fameuse signature que la lettre est reçue.
Parfait. Puis ce que j'écris dans cette lettre-là, au final, est-ce que ça pourrait être ça pourrait se retourner contre moi? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à ce que j'écris dans cette lettre-là?
Bien, quand on rédige une mise en demeure, ce qu'on suggère, là, c'est d'avoir en tête, bien, premièrement, les organismes communautaires sont là pour vous aider dans la rédaction de ces lettres-là. De un, il y a même des modèles qui se retrouvent en ligne. Mais à la base, on doit garder en tête qu'on a deux auditoires. On a la personne qui le reçoit, mais on a aussi éventuellement le tribunal si jamais on ne s'entend pas à l'amiable. Donc, de un, on ne veut pas sortir un char de bêtises dans notre mise en demeure. Ce n'est pas professionnel.
C'est pas un règlement de compte.
Non, non. Et ça, c'est un autre balado. on cherche à rédiger quelque chose entre 1 et 2 pages. Donc, on y va droit au but. On a le droit de réclamer une chose et de bonifier ou encore modifier par après, mais c'est certain qu'on ne veut pas se contredire là, éventuellement, parce qu'on s'adresse éventuellement au tribunal avec cette lettre-là. Donc,
Fait qu'il n'y a pas vraiment de forme. C'est pas obligé d'être, par exemple, écrit sur tel format de papier ou ça n'a pas besoin d'être signé par un avocat. Au final, c'est vraiment une lettre. C'est l'ouverture d'une discussion avec le propriétaire ou avec le locataire?
Oui, j'irais un peu plus... Tu sais, ça va un peu plus loin qu'ouvrir, parce qu'on dit « fais ci, fais ça dans tel délai », mais absolument, puis les tribunaux ont déjà reconnu que par SMS, WhatsApp, ça peut constituer une mise en demeure valide, en autant qu'on y retrouve les éléments que j'ai mentionnés.
Puis là, on a donné un délai dans la lettre de mise en demeure. Et il faut attendre que ce délai-là, normalement, soit écoulé. Donc, à la fin du délai, c'est là qu'on peut décider. Est-ce qu'on poursuit puis qu'on dépose une demande devant le tribunal administratif?
Oui, c'est ça. Puis en fait, il y a un entre-deux qui est vraiment intéressant pour les locataires à Montréal. C'est qu'ils peuvent appeler leur arrondissement, le 311. Dans d'autres secteurs du Québec, bien, il y a d'autres services d'inspection réglementaires. Des fois, il n'y en a pas, malheureusement. Mais à Montréal, c'est le 311. Et... dans le fond, on a un règlement sur la salubrité et la sécurité des logements à Montréal. Et tout, il y a vraiment une grande énumération d'obligations pour des habitations. Et s'il y a un manquement, on peut appeler le 311 dans le doute. Une fois que la mise en demeure est envoyée, on peut appeler le 311, demander qu'un inspecteur nous soit attitré, leur faire parvenir notre documentation. Et eux, dans le fond, peuvent menacer le proprio d'une sorte de constat d'infraction à la... C'est dans le même veine qu'une infraction pour le stationnement.
OK.
Donc, il y a personne qui aime l'étiquette de stationnement. Ben, l'idée, c'est d'encourager les proprios de se conformer et ça peut éviter une démarche au tribunal qui peut être un peu compliquée et stressante. Donc, mais après, si ça marche pas, ben effectivement, c'est le tribunal.
OK, parfait. Puis là, on a parlé des documents qu'on avait, qu'on peut parler au 3A1 de nos documents, de nos preuves. Donc, c'est important, avant d'aller au tribunal, de garder à l'esprit que c'est pas juste moi qui va venir dire ma version, mais qu'il faut que je m'assure d'avoir des preuves, donc de garder des photos.
Oui. Ben, tu fais très bien de le rappeler. Là, effectivement, un témoignage. Tu sais, on peut gagner une cause à la limite sur la base strictement de notre témoignage, de ce qu'on va dire. Puis des fois, on pense que ah ben c'est juste mon témoignage. Mais ça a de la valeur ton témoignage. Mais c'est certain que on le sait, là, une image vaut mille mots. Donc, si on a une photo en couleur qui est clairement, qui ressort clairement, bien, ça a une grande valeur. Si on se plaint de bruit, un enregistrement qui sort bien, des vidéos qui sont prises, c'est certain que ce genre de preuves-là, c'est vraiment aidant. Et aussi, bien, tu sais, avoir parlé, avoir donné des ateliers avec des juges, ils disent tous la même chose, c'est de la préparation qui est la clé du succès là, quand on litige. Si vous êtes préparé, si vous connaissez votre dossier, ben ça va vraiment aller loin là, pour votre cause.
Ça vaut la peine, si on a le temps, avec la prescription, je le rappelle, si on a le temps, ça vaut la peine de prendre le temps de monter un dossier, de trouver des preuves, de garder la preuve des textos, des échanges de courriels avec le propriétaire ou la propriétaire, ou même avec les colocataires, comme on disait tout à l'heure. Puis une fois qu'on a tout ça en main, est-ce qu'il faut qu'on imprime tout ça quand on va déposer ça au tribunal administratif du logement?
Donc, un jour, j'espère que oui, mais pour l'instant, non, parce qu'ils n'ont pas... dans le fond, ils s'attendent à ce que la preuve soit communiquée, une copie, à la limite, soit remise à l'autre partie, mais eux, ils ne prennent pas la preuve jusqu'au jour de l'audience.
OK.
Donc, c'est un peu plus dans le streamline, là, pas trop lourd comme administration. Dans le fond, c'est ça. On s'attend, quand arrive le temps d'ouvrir la demande, on ne s'attend pas à avoir vos preuves nécessairement. Mais c'est certain que vous voulez les avoir prêts parce qu'éventuellement, il va falloir les présenter au juge. Là.
Donc, on les garde avec nous. Puis là, on a parlé de les montrer à l'autre personne aussi. Donc, on en envoie une copie à l'autre personne. Mais ça, c'est après le dépôt de la demande, c'est ça?
Ouais. Donc, en somme, c'est un peu complexe, je vais le dire peut-être deux fois si nécessaire. Là, dans le fond, admettons, on ouvre notre demande, que ce soit en personne en ligne, on reçoit notre copie là, pour le demandeur, le numéro de dossier. On fait des photocopies, on remplit également ce qu'on appelle une liste des pièces. Donc ça, pièce, on réfère dans le fond aux preuves.
Okay.
Une liste de c'est quoi? Donc ça peut être le bail, ça peut être des courriels échangés, ça peut être la copie de la mise en demeure. Et dans le fond, donc on prend notre copie pour le défendeur, on complète notre liste des pièces. Donc on prend ces deux documents-là, on les envoie par une façon qu'on a la preuve que ça a été reçu, donc courrier recommandé, messagerie quelconque. Et avec ça, on prend ensuite, ça doit se faire dans les 45 jours qu'on l'ait envoyé et que ça a été reçu, et on dépose la preuve de cette réception-là au tribunal. Et ça, ce dépôt peut se faire soit en ligne, soit en personne.
OK.
Et là, on a notre date d'audience qui s'en suivra.
Parfait. Fait qu'on va peut-être reprendre ça une étape à la fois.
C'est
donc,
bon.
Quand on dit ouvrir un dossier, au final, c'est juste de signifier ou de dire au tribunal, j'ai une injustice, puis eux, ils vont créer un dossier pour nous. C'est ça, ouvrir un dossier.
En personne, ils vont le faire avec nous.
OK.
Dans le fond, ils vont identifier avec nous c'est qui les parties. C'est quoi le bail, donc quelle période, c'est quoi le loyer, c'est quoi qu'on demande, les conclusions, donc condamné, ordonné, les motifs, pourquoi. Et donc ça, ils font ça avec
nous. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait mis dans la lettre de mise en demeure, d'une certaine manière.
Oui.
Les parties, c'est les personnes impliquées dans le conflit. Après ça, on explique un peu les preuves qu'on avait, qu'on a ramassées au fur et à mesure, où on explique un plus peu. Ce qu'on veut du tribunal, ce qu'on demande.
Et pourquoi.
Et pourquoi.
Oui.
Puis ensuite, on explique aussi, bon, le bail.
Donc, je peux donner un exemple, ouais. Juste pour aider à clarifier. Admettons, on utilise des fois cette... j'ai une sonnette qui est brisée, les coquerelles dans la cuisine... la fenêtre est défoncée. Donc, je suis rendu un peu à ras-le-bol parce que souvent, on n'y va pas avec le premier problème et j'ai de l'accumulation. Donc là, la ville a passé, les travaux ne sont toujours pas faits. Donc, je vais pour ouvrir ma demande. Dans mes conclusions, on va retrouver, par exemple, ordonner au locataire d'effectuer les réparations nécessaires à la sonnette, procéder à l'extermination des coquerelles, réparer la fenêtre dans la règle de l'art. Ordonner la diminution, condamner le locataire de payer une diminution de loyer à partir de la mise en demeure. Condamner le locataire à payer des dommages moraux, c'est-à-dire de l'argent pour le stress et inconvénient subi de X dollars. Et les motifs, c'est je suis locataire depuis 15 ans, j'ai commencé à constater tel problème à partir de telle date. Une mise en demeure a été envoyée, ça n'a toujours pas été corrigé et ça m'a causé beaucoup de détresse. Mm-hmm. C'est très succinct, c'est pas un roman.
Puis c'est à cette étape-là, au final, que les personnes dont on parlait tout à l'heure, les personnes qui travaillent pour le tribunal, peuvent devenir vraiment utiles puis des alliés dans la préparation de cette demande-là, de ce dépôt de cette demande-là.
Exact.
OK, parce que là, on sait ce qu'on veut.
Exact.
Fait qu'eux, ils peuvent nous aider à remplir puis à faire le dépôt de la demande.
C'est les maîtres de la rédaction, c'est clair.
Puis là, supposons que c'est pas nous, la personne qui dépose la demande. Nous, on a une demande contre nous. On est visé par une demande. Oui. Comment est-ce qu'on va le savoir, ça?
OK. Donc, quand il y a une demande contre nous, dans le fond, comme là, on vient de décrire comment rédiger une demande, mais justement, la prochaine étape, c'est que le demandeur doit envoyer une copie au défendeur. Bien, si on est en défense, admettons, locataire qui se fait poursuivre, le plus commun, c'est pour non-paiement de loyer, bien, le propriétaire doit envoyer à notre adresse, indiquée au bail, une copie de sa demande.
OK.
Par après... on va également recevoir une convocation à une date de procès par le tribunal administratif du logement.
Puis j'aurais peut-être une petite question encore, mais qui n'est pas si petite que ça quand on considère des fois les coûts que ça peut avoir, des demandes comme ça. C'est quoi les frais? À quoi on peut s'attendre en termes de frais quand on dépose une demande comme ça?
Ça peut varier. Ça évolue à chaque année de 1 à 2 $ Donc, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais ça varie entre 60 et 90 $ en ce moment.
Puis est-ce que
selon
fois
le
qu'il...
sujet.
OK. Ah, ça varie en fonction de la demande.
La demande, le prix du loyer, il y a quelques facteurs.
Puis est-ce qu'à chaque fois qu'on modifie, supposons qu'on disait tout à l'heure, il y a des événements qui changent, je veux modifier un peu, ajouter par exemple une conclusion parce que je veux quelque chose de plus du tribunal ou j'ai oublié de dire que j'ai vécu de la détresse, puis là je veux le dire. Est-ce que ça nous recoûte l'argent?
Non, ça ne coûte rien. Il y a un formulaire parfait. On a juste à... Dans le fond, si ça nous arrive, il faut compléter... Il y a un formulaire pour ça et l'amendement. Puis on ajoute, par exemple, une nouvelle conclusion condamnée pour d'autres dommages et expliquer pourquoi. On doit envoyer une copie de ça au tribunal et à l'autre partie. Et la preuve que ça a été reçu, on doit le déposer au tribunal aussi.
OK, parfait. Donc... Puis le tribunal, eux, ils communiquent avec nous comment? Comment est-ce qu'ils vont nous faire savoir? Ah, oh, vous allez avoir une audience à telle date, à telle heure.
Donc, moi, mon rêve, c'est qu'un jour, on soit tous comme branchés là, dans le poignet, puis ça nous sort...
Une micro-puce.
Une micro-puce, mais pour l'instant, c'est par courrier ordinaire.
OK. On n'est pas là, hein? On n'est pas là.
C'est peut-être correct aussi, là. mais c'est certain que ça arrive que des gens ne reçoivent pas leur courrier. Des fois, dans les cas extrêmes, peut-être il y a des gens qui jouent dans votre courrier. J'espère que non. Je ne veux pas créer de paranoïa. Pas de paranoïa.
Paranoïa, oui.
Merci. Mais c'est ça, courrier ordinaire. Donc, important de, si jamais vous avez un dossier ouvert et vous devez déménager, il faut absolument... informer le tribunal parce qu'eux, ils ne savent pas c'est où que tout le monde habite.
Puis ça peut se faire aussi sur les sites web.
Il y a un formulaire pour ça.
Parfait. Bien, puis là, on passerait maintenant, avant encore de passer devant le tribunal, Je pense que le tribunal administratif du logement offre un service de conciliation. Là, on n'est pas super familier, ou nos auditeurs, si nos auditeurs et auditrices sont pas super familiers, familières avec la conciliation, est-ce que vous pourriez nous expliquer c'est quoi et quel est l'intérêt de ça dans un conflit en droit du logement?
Oui, donc la conciliation, pour ceux qui connaissent la médiation, c'est vraiment un concept similaire. En gros, c'est un employé du TAL, du tribunal, va rencontrer les parties qui sont intéressées. Donc, s'il y a une partie qui ne veut pas, ben, il n'y a pas de conciliation.
OK, il faut que ce soit les deux qui veulent aller en conciliation.
C'est ça. Donc, si locataire et proprio sont intéressés, on vous rencontrera avec un employé du tribunal qui essaie de voir si une entente à l'amiable est possible. Et on sait par les études en droit que les gens, quand ils se parlent et s'écoutent, les ententes deviennent possibles. Moi-même, j'ai vu un cas où il y avait un conflit. Tu sais, c'est souvent des conflits qui prennent de l'ampleur, mais à la base, sont peut-être pas énormes et que la conciliation peut vraiment être intéressante parce que ultimement, on parle d'êtres humains qui se côtoient parfois tous les jours. Et
qui vont continuer possiblement à se côtoyer encore.
Exactement. Donc, ça permet de diminuer un peu les conflits pour le futur et aussi d'éviter un procès parce que à part les avocats, il n'y a pas grand monde qui aime les procès.
Donc, la conciliation, ça peut être une bonne idée. Nous, on a un épisode de notre balado qui est dédié au mode de prévention et de règlement des différends, puis on aborde la conciliation. Donc, peut-être que c'est une question qui intéresse certains, certaines. Ils peuvent se référer à cet épisode-là. Maintenant, on serait rendu au processus devant le tribunal. Donc, une fois qu'on se dirige au tribunal administratif du logement, qu'est-ce qui se passe? Donc, après avoir soumis une demande au tribunal, on va recevoir par courrier, donc par la poste, un avis d'audition qui donne la date et l'heure du procès. Mais ça, c'est la question qui tue, là. Combien de temps ça prend avant qu'on reçoive cet avis d'audition?
Bon, donc derrière la question, c'est vraiment de savoir combien de temps que ça prend pour avoir une date devant le tribunal, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça. C'est combien de temps avant que je sois
convoqué,
entendu, que le tribunal me donne l'occasion de dire qu'est-ce que je veux, puis que je puisse faire mon argumentaire.
Dans le fond, le tribunal a été vraiment... Tu sais, il faut donner des fleurs là, quand c'est mérité, là, puis il a vraiment été bon dans les dernières années à travailler ces délais. Et il y a des délais variables. Donc, ça peut, par exemple, quand on vit des problèmes dans notre logement, on peut être entendu, si c'est urgent, on peut être entendu dans l'espace de 1 à 2 semaines. Quelque chose qui a juste besoin d'être corrigé, là, ça peut être 6 à 8 semaines de délai. Même chose pour un non-paiement de loyer, on peut s'attendre à ce qu'il y ait un procès dans 6 à 8 semaines. Donc, par contre, si j'ai fait une chute puis je réclame de l'argent, puis juste de l'argent, ou dans un autre contexte, juste de l'argent, ça peut être 1 an et demi, 2 ans.
OK.
Donc, ça varie.
Mais comment est-ce qu'on décide qu'est-ce qui est urgent? C'est-tu moi qui dois dire « Ah, c'est vraiment urgent, je sais que c'est urgent en ce moment, ce que je vis, j'ai besoin qu'on m'entende rapidement? »
Donc, bonne question. L'important, là, c'est que si on a un enjeu de santé ou de sécurité avec le logement, par exemple, il y a de la criminalité à côté, on craint littéralement pour notre sécurité, il faut le mentionner, au besoin, joindre des rapports d'incidents, pour que ça soit pris en compte dans le moment qu'on vous donne une date de procès, parce que le tribunal s'est engagé à être sensible aux réalités vécues là, par les personnes.
Donc, le tribunal a déjà, d'une certaine manière, classé un peu les types de demandes en fonction d'un degré d'urgence, donc du moins urgent au plus urgent. Puis pour qu'on soit reconnu, donc pour que le tribunal dise « oui, c'est urgent, ta demande », il faut qu'on l'indique, les raisons de l'urgence, lorsqu'on fait le dépôt.
Exactement.
OK.
Donc, tout ça s'appelle la mise au rôle, exactement.
Puis le rôle, c'est au final juste le calendrier du tribunal.
Exactement.
OK. Ouais.
Puis donc, je veux juste mentionner, quand ils vont nous convoquer, une chose qu'on ne fait pas assez souvent, c'est que quand on pense à Montréal, en tout cas, des fois, on pense à Montréal que le monde tourne autour de nous. Là, je vais tomber dans ce piège-là. Donc, à Montréal, le tribunal administratif du logement, on pense au village olympique. Mais en fait, il y a différents bureaux. Il y en a d'autres aussi, on peut être convoqué. Donc, c'est vraiment important de regarder. Puis, je suis certain que c'est vrai dans d'autres parties du Québec. Là, c'est vraiment important de regarder c'est où exactement qu'on est convoqué. C'est pas nécessairement où on est allé la dernière fois.
OK.
Ou que notre ami est allé. Donc, parce que si on va à la mauvaise place, ça peut avoir des conséquences vraiment fâcheuses.
Donc, si on tape, par exemple, sur Google Maps, tribunal administratif du logement, ce sera peut-être pas la bonne adresse et on peut se rendre au mauvais lieu. C'est vraiment écrit en toutes lettres sur l'avis d'audition. Puis on se fie
absolument
à ce document-là.
Oui, oui, oui.
OK, parfait. Puis si on le perd, ce document-là?
Donc, il y a, puis ça, c'est bon à savoir, sur le site web du tribunal, on a ce qu'on appelle le plumitif. Donc, c'est un vieux terme là, qui réfère à la plume, je crois. Et
on imagine cette affaire facilement qui existait un Swiffer
pour écrire avant.
L'ancêtre du Swiffer.
aussi. Et dans le fond, on peut, avec notre adresse, voir quels dossiers sont ouverts à présentement. Donc, même si on doute, là, ah, telle personne, il m'en veut vraiment, est-ce qu'il m'a déjà. Tu sais, est-ce que je suis poursuivi en ce moment? Je peux aller vérifier. Moi, je le fais à chaque fois que quelqu'un rentre dans mon bureau. C'est la première chose que je fais. C'est quoi votre adresse? On vérifie s'il y a un dossier ouvert. Puis c'est ouvert, c'est public pour tout le monde.
OK, donc c'est accessible. Et au final, le plumitif, c'est, si on veut, le registre du tribunal. C'est là où ils mettent toutes les adresses qui sont impliquées dans un conflit puis qui vont entendre. Puis ils mettent la date, l'heure et le lieu où les personnes impliquées dans le conflit vont être entendues.
Exact. Puis c'est aussi un enjeu vraiment important et problématique également que quand on a un litige devant le tribunal, un conflit, bien, ça reste public, que l'on soit en poursuite ou en défense. Et c'est quelque chose que moi-même, j'ai revendiqué, d'autres ont revendiqué, que quand on est en demande, les locataires, on ne devrait pas avoir à garder une trace de cette démarche-là parce que malheureusement, pas tous, mais certains propriétaires, illégalement, vont nous refuser un logement par la suite parce qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui dérange chez eux. Et inversement, si on se fait poursuivre dans nos capacités, par exemple, pour un non-paiement de loyer, bien, ça reste public. Donc, c'est un enjeu, cette publicité-là là, de ce qui se passe au tribunal.
Si on veut consulter ce plumitif-là parce qu'on est locataire, parce qu'on sait qu'on va être impliqué dans une audience devant le tribunal, est-ce que c'est juste de taper « plumitif », par exemple, sur un engin de recherche comme Google, puis d'écrire « tribunal administratif du logement », puis on va le trouver?
Exactement.
OK.
Ça parfait. Devrait être le premier lien.
OK. Bon, ben c'est donc très accessible, ce Google, qui est utile et aussi problématique.
C'est souvent la meilleure façon de naviguer le site web du TAL, c'est d'utiliser des mots-clés sur Google et « tribunal administratif du logement ».
Parfait. Donc, TAL, c'est vraiment une bonne manière, puis c'est une abréviation que Google comprend.
Mm-hmm.
OK. Et là, on passe vraiment dans le vif du sujet. L'audience ou le moment où le tribunal nous entend, qu'on est vraiment dans la cour, au palais, ou dans les lieux où siège le décideur. Donc, c'est qui est présent? Comment ça fonctionne? À quoi on peut s'attendre?
OK. Donc, il y a beaucoup de monde, typiquement. Là. Donc, dans une salle d'audience, il y a un juge ou une juge et on va convoquer on va appeler à plusieurs personnes à venir pour différents procès au courant d'une journée. Donc, des fois, on va avoir, pour une cause de non-paiement, ça se peut que de loyer, là, un loyer qui reste à être payé, on peut avoir plusieurs causes à l'intérieur d'une seule heure.
OK, c'est pas juste nous. Le tribunal, il va pas juste entendre seulement mon injustice.
Cette journée-là, non, exactement. Donc, ça, c'est un très grand défi au tribunal, c'est de savoir combien de temps m'est alloué. Et si j'ai besoin de plus de temps, de vraiment l'exprimer, dire, ben moi, aujourd'hui, là, j'ai l'impression qu'on m'a fixé peut-être une heure, mais j'ai quatre personnes qui doivent être entendues ou j'ai 100 photos qui constatent la situation ou 3 ans de litige, de conflit à décrire. C'est un défi de savoir combien de temps on a vraiment. Donc, on peut peut-être demander cette information-là à l'accueil quand on arrive, combien de temps est alloué. Un autre défi qu'on a, c'est que ça se peut qu'on soit convoqué, qu'on soit demandé d'arriver une telle date, telle heure, et qu'on ne nous entende pas, puis qu'on remette à une autre date. Parce que on dit le rôle a été surchargé. Il y a eu trop de gens. Exactement.
Le tribunal n'a pas pu entendre tout le monde, puis il y a des heures d'ouverture et de fermeture. Donc, ça se peut qu'on ne nous entende pas cette journée.
Exactement. Peut-être quelqu'un est malade, peut-être on ne sait jamais.
Puis si ça nous arrive une fois, est-ce que c'est possible que ça nous réarrive par la suite? Est-ce que c'est possible qu'on ait à prendre plusieurs journées de congé, par exemple?
Absolument, absolument.
OK. Donc là, il y a beaucoup de monde. Quand on arrive, on rentre dans la salle de cours. Ça ressemble à quoi? Où est-ce qu'on s'assoit, étant donné qu'on n'est pas tout de suite entendu?
Donc, quelque chose qui est positif du tribunal, c'est que c'est pas trop formel non plus. Donc, quand on va être appelé dans la salle, c'est premier arrivé, premier s'assoit à gauche ou à droite du juge. Les témoins s'assoient à l'arrière. Ils vont être demandés de prêter serment, comme quoi ils vont dire la vérité, et ils vont être ensuite demandés de quitter la salle pour pas entendre le témoignage des autres lors de l'audience, s'il y a des témoins. Très souvent, ça va juste être le proprio et le locataire qui va parler au tribunal.
Donc, les témoins, ce serait justement pas le proprio et le locataire. Oui. Ce serait toute autre personne qui a quelque chose à dire, qui peut venir prouver quelque chose sur l'enjeu du conflit.
Exactement. Puis okay. Comment je décris ça, dans le fond, on pense, mais qu'est-ce que je veux dire? Comment ça marche? T'sais, dans le fond, premièrement, la personne qui ouvre la demande, c'est à elle. Si on imagine la balance de la justice ou la dame à New York, là, qui... ça, c'est peut-être une autre image. Mais dans le fond, la balance, là, c'est que celui en demande doit faire pencher la balance de son côté.
Mm-hmm. Il doit prouver ce qu'il demande.
Et comment on fait ça? C'est on raconte une histoire vraie. Et les documents, les photos, les enregistrements sont là pour soutenir. Mais ultimement, c'est un exercice de communication. Il y en a qui l'ont un peu plus facile que d'autres. Si, par exemple, le français ou l'anglais, parce qu'on a le droit de parler en anglais aussi, c'est pas votre langue maternelle, c'est un défi supplémentaire. Des fois, on veut penser à faire venir un interprète avec nous, que l'on paye, pas un membre de la famille. Ça sera pas nécessairement accepté. Parce qu'on est là pour raconter au tribunal qu'est-ce qui s'est passé de notre point de vue. Et on y va de début jusqu'à la fin. Et encore une fois, le défi, c'est de... Le tribunal ne veut pas nécessairement savoir tout ce qui vous est passé par la tête. Et chaque fois qu'il y a eu un revirement, il faut des fois faire des choix dans l'information qu'on partage. Mm-hmm. Donc, il faut donner l'information complète, mais pas au point que ça va prendre 6 jours pour donner votre preuve. Donc, cet exercice-là, encore une fois, ça peut être vraiment intéressant de le faire en avance. avec quelqu'un qui se connaît, par exemple, un organisme communautaire qui travaille dans ce domaine-là, ou juste se pratiquer avec un ami, dire « Hey, tu sais, tu connais un peu mon histoire, mais j'aimerais ça te raconter qu'est-ce qui s'est passé de mon point de vue. » J'ajoute, si tu me permets un autre point, là, il y a deux choses à éviter. On ne fait pas on récite pas de mémoire, parce que le tribunal estime que c'est son rôle d'évaluer votre crédibilité. Est-ce que vous êtes menteur? Est-ce que vous êtes de bonne foi?
Est-ce que vous dites la vérité? Est-ce que c'est sincère?
C'est ça. Donc, il veut vous voir parler de façon un peu plus naturelle.
Ah, voilà.
donc, il ne veut pas que vous lui disiez en pleine face, ni que vous récitez quelque chose comme un robot. Mm-hmm. Il faut trouver un naturel. C'est certain qu'on a le droit d'avoir des notes avec soi pour rien oublier, mais il faut vraiment essayer d'être le plus naturel possible.
Puis ce jour-là, parce que là, on avait tout gardé notre preuve avec nous dans un classeur, par exemple, chez nous à la maison, bien en sécurité, mais ce jour-là, il faut l'emmener au tribunal, puis est-ce qu'on la dépose avant? Est-ce qu'on la met à un endroit où on l'a avec nous jusqu'au moment où on est devant le juge ou la juge, puis on lui montre comment on fait ça?
Oui. Donc, on a déjà envoyé une copie de la liste des preuves, qu'on appelle la liste des pièces, à l'autre partie. Peut-être elle a demandé une copie à l'avance. Peut-être que non. Dans tous les cas, il faut arriver avec 3 copies ou une copie pour la juge, une copie pour l'autre partie, ou si on a plus qu'une copie pour chacune, et une copie pour soi-même pour pouvoir être en mesure, dans le fond, on ne fait pas juste dire « Tiens, monsieur le juge, voici la mise en demeure, puis je passe au suivant. » Non. Voici, monsieur le juge, j'apporte à votre attention la mise en demeure. Vous pouvez constater où j'ai surligné en jaune que j'ai bien indiqué tel problème à telle date. Okay. On fait parler nos documents, nos preuves. Et on, justement, on doit être en mesure de fournir une copie à tout le monde pour que tout le monde puisse suivre. Et si besoin est là, ben dire « Attends, ça ne marche pas ce document-là, c'est clairement forgé ma signature, par exemple.
Mm-hmm. » OK. Et donc, si je reprends, si je suis en conflit, par exemple, avec mon propriétaire, j'imprime une copie pour moi, une copie pour mon propriétaire et une copie pour le ou la juge. Et lorsque j'arrive, lorsque le tribunal me dit « OK, on va entendre le dossier numéro, numéro, numéro », c'est mon numéro, je me lève, j'avance, puis là, je vais donner, quand je vais parler du document, je vais prendre le document, en donner une copie à mon propriétaire, en donner une copie au juge, et ensuite dire, bon, ben ce que vous avez, ce que vous regardez, c'est une lettre de mise en demeure, par exemple.
C'est ça.
J'aimerais vous montrer que le texte surligné, c'est moi où je demande telle chose.
Exactement.
C'est comme ça qu'on fait parler la preuve.
Si exactement. Si j'ai 12 photos de coquerelles et de fenêtres cassées et peut-être un enregistrement pour la sonnette qui ne fonctionne pas, là, ben, je vais avoir énuméré mes 12 photos imprimées en couleur.
Puis imprimées trois fois.
Trois fois. Donc, ça coûte un peu d'argent quand même. Et de pouvoir dire, ben, vous voyez, ça, ces photos-là, je les ai prises à tel moment avec ma caméra quelconque. Et vous pouvez voir ici la montagne de coquerelles qui mange ma rôtie du matin. Là.
Puis là, on a parlé de vidéo. Ça m'amènerait à la question de comment est-ce qu'on fait, parce qu'on ne peut pas vraiment imprimer des vidéos. Comment est-ce qu'on apporte trois copies de vidéo?
Bon, donc, dans le fond, ce que le tribunal s'attend de nous, c'est qu'on amène notre propre équipement pour jouer des vidéos. Puis si on n'est pas en mesure de le faire, de leur en faire part pour qu'ils trouvent une façon de nous accommoder et d'amener une clé USB pour, qui contient la vidéo pour le laisser avec le juge après l'audience.
OK, donc on amène une clé USB pour le juge, mais on n'a pas besoin d'emmener une clé USB pour l'autre personne?
Peut-être, je me rappelle.
Ce serait idéalement, on le ferait.
Idéalement, on le ferait, mais l'important, c'est de pouvoir leur laisser de voir la vidéo le jour de l'audience, donc c'est moins nécessaire.
Parfait, donc là, on a entendu la preuve.
Puis j'ajouterais juste, oui. Il y a une question qui revient tout le temps. Oui, vous avez le droit de enregistrer une conversation à laquelle vous faites partie. C'est sûr que si vous êtes toujours en train de sortir le téléphone puis dire « Ah ouais, je te filme », c'est sûr que ça pourrait tourner contre vous éventuellement, mais quand il y a une discussion importante qui a lieu et vous, disons, vous faisiez pas confiance à l'autre partie, bien, l'autre personne, vous pourriez discrètement enregistrer la discussion et ça peut être rejoué par après, c'est légal. Ce qui n'est pas légal, c'est d'enregistrer quelque chose où vous n'êtes pas, on ne sait pas que vous êtes là. Là, tu sais, par exemple, vous laissez un téléphone sur la table, vous partez, vous laissez couler l'enregistrement.
Il faut qu'on soit une des personnes qui discutent pour pouvoir enregistrer secrètement une conversation.
Exactement.
OK, parfait. Puis ça aussi, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être mis en preuve devant le tribunal en apportant, par exemple, l'enregistrement sur une clé USB, puis en le faisant écouter avec, évidemment, en ayant appelé le tribunal avant pour savoir c'est quoi vos installations, est-ce que vous avez ça, une prise pour un iPhone, par exemple, pour ou un autre téléphone Android, etc. Mm-hmm. Bon, ben parfait, donc on a entendu la preuve, puis là ensuite, supposons que nous, on était la personne qui demande, ça va être notre tour seulement. Puis ensuite, l'autre personne va être entendue. Mais supposons que la personne a dit des choses que je ne suis pas d'accord, que ce n'est pas vrai. Est-ce que j'ai le droit de dire « objection » un peu théâtralement, comme dans les films?
Donc, dans le fond, si on revient à la balance, chacun a sa chance pour mettre sa version des faits dans la balance. Et les objections sont là, elles sont pertinentes pour dire, par exemple, deux choses. Soit... je dirais, sauf exception, il y en a d'autres, là, mais les plus communes, là, c'est un, elle parle, par exemple, j'ai un dossier, un casier judiciaire. J'ai déjà fait un crime, puis ça n'a pas rapport avec notre dossier de logement, mais on est en train de dire, bien, monsieur a déjà conduit au volant en état d'ébriété, je pourrais faire une objection. Objection, ce n'est pas pertinent, monsieur le juge. Mm-hmm. OK? Donc, ça, c'est une objection sur la pertinence. Ou encore, l'autre, c'est pour le oui-dire. Donc, c'est important de le dire aussi. Là, c'est quoi le oui-dire? Bien, je ne peux pas rapporter ce que quelqu'un m'a dit. Moi, je peux seulement rapporter ce à quoi j'ai vu ou entendu moi-même. Donc,
ça ne peut pas être l'homme qui a vu l'ours qui vient nous parler de l'ours.
Exactement. C'est parfait.
OK. Parfait. Puis donc,
c'est ça les objectifs. Donc, ouais. Pour revenir à votre question, on ne cherche pas à contredire l'autre personne. Mm-hmm. C'est au juge. Tu sais, on n'est là pas pour avoir une chicane là, devant un juge. On est là pour chacun présenter sa version. Si par après, si on n'est pas d'accord, on reste calme, on reste silencieux. Mm-hmm. Si on pense qu'il y a quelque chose à rajouter, on pourrait demander au tribunal l'opportunité de rajouter une fois que l'autre personne a parlé. Et ce sera au tribunal de juger là, si c'est pertinent de vous donner la parole ou pas.
Donc, c'est chacun son tour. Puis le seul moment où on peut intervenir, donc dire quelque chose pendant le tour de l'autre, c'est vraiment si on pense qu'il y a quelque chose qui contrevient aux règles du tribunal sur la preuve. Donc, qu'est-ce qu'on a le droit de prouver, qu'est-ce qu'on a le droit de dire. Mais c'est pas une question de « Ah, c'est pas comme ça que ça s'est passé, monsieur ou madame la juge, je suis pas d'accord, ça, on reste silencieux, on a eu notre tour. »
Oui, puis, tu sais, je pense que c'est un bon moment de le dire aussi là, que les problèmes avec un logement, là, c'est parmi les choses les plus difficiles à vivre. Il y en a plein de choses difficiles à vivre, là, mais ça en fait partie parce que on est toujours dans notre problème. On regarde toujours les maudites coquerelles manger notre titre. Donc là, quand on arrive devant le tribunal, c'est sûr qu'on est très émotif, très stressé. Et on n'est pas les premiers non plus. Donc le tribunal aussi, il y a une capacité de décoper les émotions de tout le monde. Donc c'est certain que c'est apprécié quand les locataires ou les propriétaires sont capables de se contrôler, mm-hmm, et de pouvoir faire la part des choses. Donc, et vice-versa, ça peut être dérangeant pour le tribunal, là, une personne qui laisse l'émotion contrôler toutes ses interventions.
Est-ce que ça pourrait être une bonne idée, supposons on a une date et une heure, d'arriver plus tôt, en fonction des heures d'ouverture du tribunal, pour essayer de voir à quoi ça ressemble? Est-ce que ça se ressemble quand même, la procédure, donc les tours de parole et tout ça, la manière que le tribunal fonctionne d'un dossier à l'autre?
Oui, absolument. Donc, excellente idée de venir à l'avance, observer. Encore mieux, des mois à l'avance pour pouvoir savoir, ah oui, mm-hmm, ben je vais modifier mon dossier de telle façon. Et à savoir également qu'on peut être accompagné. Là, on peut faire la demande au tribunal d'avoir quelqu'un assis à côté de nous, juste pour avoir une personne, une alliée à côté de nous pour ne pas se sentir complètement dépourvu face à un juge puis à notre proprio qu'on déteste, par exemple, c'est bien d'avoir un allié à côté de soi. Maintenant, on a également la capacité d'être représenté par un tiers qui n'est même pas avocat. Donc, depuis février, avec le projet de loi 31 qui a été adopté, on peut, si pour nous, là, ça n'a pas de sens, on n'est pas capable de gérer tout ça, on peut donner un peu le rôle d'avocat à un ami qui est un peu plus à l'aise, mais c'est sûr qu'on va toujours devoir parler, on va devoir témoigner, mais ils pourront prendre un peu plus, nous aider à nous poser des questions, à expliquer des choses au tribunal à notre place.
Puis ça, on peut le faire, on n'a pas besoin d'avoir une raison immense, ça peut être juste, moi, j'aime pas ça parler beaucoup devant les gens, ça me donne le trac, ça me rend nerveux, nerveuse. Dans ce
Donc,
cas-là,
il n'y a plus de raison requise. N'importe qui, tu sais, en autant que, dans le fond, tout le monde, sauf exception, peut le faire sans nécessité de le justifier. Il suffit d'avoir un écrit là, qui confirme que cette personne-là me représente. Là. Mais il reste pas moins que la règle du oui-dire, là, l'ours de l'ami. Là,
l'ours de l'ours qui a vu l'homme.
Exactement, ça va mal. Mais à ce moment-là, cette personne-là, elle a quand même pas la capacité de dire ce qu'elle vous a entendu raconter là, dans ce dossier-là. Donc, vous allez quand même devoir parler.
Oui. Donc, si je reprends rapidement, on a reçu un avis d'audition, on a un jour, une date et une heure. Et un jour, une date, c'est un peu la même chose. Donc, une date et une heure, tout simplement, et un lieu. On s'y rend. Quand on rentre dans la salle de cours, on s'assoit à la même place que tout le monde, donc à l'arrière de la salle. C'est ça, en attendant notre tour. C'est lorsque vient notre tour que là, on peut aller s'asseoir à gauche ou à droite du ou de la juge. On va avoir notre tour de parole. En premier, c'est si c'est nous qui avons fait la demande, on va parler en premier. Ensuite, si c'est nous qui n'avons pas fait la demande, mais on est visé par le conflit, on va parler en deuxième. Après tout ça, est-ce qu'il y a un moment, une fois que les deux personnes ont parlé, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le tribunal dit quelque chose? Est-ce qu'il rend une décision tout de suite?
Donc, quand il y a des quand c'est une cause un peu plus formelle, ce qui est moins le cas au tribunal administratif du logement, là, on va demander des arguments. Tu sais, présentez-moi, les locataires, propriétaires, pourquoi je devrais rendre un jugement en votre faveur. Présentez-moi des jugements, de la loi, pourquoi vous avez raison. Ce n'est pas vraiment l'attente du tribunal, sauf exception, souvent. Mais si la personne s'est préparée de cette façon-là, elle peut être tout à fait libre de se lever et dire « Monsieur, madame la juge, ben je voudrais apporter à votre attention tel jugement que j'ai pu trouver par ma propre recherche juridique. »
Des jugements qui, par exemple, ressemblent au même à la situation que je vis, qui pourraient être intéressants dans la décision du juge.
Exactement. Mais, tu sais, gardez en tête, la plus grosse tâche de n'importe qui se représente au tribunal, c'est pas tant de trouver des jugements qui les favorisent, mais plutôt de se préparer pour bien raconter son histoire de façon claire, avec les documents clairement en soutien, être capable de bien référer le juge. Parce que, sauf exception, puis il y en a, là, mais le droit est quand même assez clair dans le domaine. Donc, c'est certain que ça peut être intéressant d'avoir un avocat, mais la plus grosse tâche d'une personne qui se représente seule, c'est de bien préparer son dossier. Puis j'ajouterais juste sur le point tout à l'heure, là, arriver à l'avance. Parce que un retard, puis on pourra vous faire perdre votre cause juste parce que vous aviez manqué de l'autobus, là, tu sais.
Donc, la ponctualité même d'arriver, là, on peut se donner une heure à l'avance, ce serait pertinent. Donc,
oui.
C'est une journée importante quand même, donc on veut être là à l'heure. Et là, on a parlé peut-être que l'autre personne, elle est représentée par avocat. Est-ce que c'est possible, étant donné que nous, on se représente seul, qu'on fasse face à un avocat ou une avocate?
Oui, donc y a un peu de confusion à la matière là, au tribunal administratif du logement. Dans le fond, les avocats sont, on pourra dire, là, sauf exception, les avocats sont permis au tribunal. On ne les permet pas quand le seul enjeu, c'est de l'argent, puis c'est moins de 15 000 $. Donc, c'est quand même plutôt rare que les avocats sont exclus, mais ça arrive. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Mais, règle générale, ils ont le droit d'être là.
Puis là, donc, à la fin de tout ça, tout le monde s'est fait entendre. Est-ce que le tribunal, comment il décide, comment il rend sa décision? Comment on va savoir comment le juge ou la juge a tranché?
Bon, donc le juge, je crois que c'est 3 mois pour rendre son jugement. Et, ou 4, j'oublie. Mais dans le fond, le juge prend en considération tout ce qu'il ou elle a entendu durant le procès et évalue en fonction, en grande partie, de la crédibilité, mais aussi des critères juridiques. C'est quoi? Est-ce que la personne lui convainc que, par exemple, si c'est le propriétaire qui demande de reprendre le logement pour y habiter son garçon là, aux études, ben, est-ce que le garçon était là? Est-ce qu'elle est convaincue que le garçon vraiment va faire des études près de cet appartement-là? Est-ce que c'est crédible, tout ça? Donc, souvent, on se demande, mais comment est-ce qu'il va trancher, justement? Puis, c'est... les juges vont souvent regarder des points non contestés ou essayer de voir c'est quoi qui fait le plus de sens dans cette histoire-là et aussi comment les gens ont performé, si on veut, lors de l'audience. Et en fonction de tous ces facteurs-là, va prendre une décision. Donc, c'est vraiment une tâche difficile et qu'on réserve à des gens qui ont la formation pour le faire.
Puis, qu'est-ce qu'on peut faire si, par exemple, parce que là, le juge va prendre une décision, on sait un peu comment il va la prendre parce qu'il va se fier sur le droit, mais aussi sur comment on lui a présenté l'histoire, puis qu'est-ce qui lui apparaissait le plus sincère ou, par exemple, qu'est-ce qui correspond le plus avec le résultat juste. Mais comment est-ce que nous, on reçoit cette information-là? Est-ce que c'est le jour même? Est-ce qu'on va le recevoir encore par la poste?
Donc, sauf exception, le jugement va être rendu par écrit, puis ça va être envoyé par la poste. Les délais, des fois, quand les juges sentent qu'il y a vraiment un enjeu qui est pressant, ils vont des fois rendre un jugement plus rapidement, voire quelques semaines, mais souvent, ça va être plus des 3 ou 4 mois là, pour rendre
Donc,
un jugement.
D'ici à ce qu'on ait le jugement, tout ce qu'on peut faire, d'une certaine manière, c'est attendre?
Absolument, oui.
Puis une fois qu'on l'a, puis qu'on lit, puis qu'on se rend compte peut-être qu'on n'est pas d'accord avec la décision du juge ou de la juge, comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a encore quelque chose qu'on peut faire?
Donc, en droit, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Mais il faut avoir l'attitude inverse. T'sais, toujours avoir en tête que la première, ça risque et ça devrait être la dernière parce que toute l'économie du système judiciaire veut que vous soyez entendu qu'une seule fois. Donc, on ne veut pas vous entendre une deuxième fois. Mais il y a toujours une option ultérieure. Par exemple, que ça soit demander la permission d'aller en appel à la Cour du Québec, demander la révision si c'est, par exemple, une fixation de loyer. Il y a toutes sortes d'options. Mais il faut être prêt pour la première fois parce que souvent, c'est des démarches beaucoup plus lourdes, beaucoup plus pointilleuses.
C'est pas recommencer le procès au final. On peut pas recommencer le procès une fois qu'on a eu une décision. Donc, la première fois, c'est vraiment important parce que par la suite, si je comprends bien, ça va être quelque chose de différent. Ça va être, par exemple, on va vous entendre sur des points de droit plus précisément.
Absolument. Pourquoi est-ce qu'on devrait intervenir? Parce que le réflexe premier, c'est de ne pas intervenir.
C'est de dire le juge ou la juge a bien fait son travail.
Exactement.
Puis on fait confiance un peu à comment elle a entendu. Puis on ne pourra pas se faire réentendre nécessairement de la même manière.
Puis pour l'illustrer, là, on entend souvent, je m'en irai jusqu'à la Cour suprême si j'ai besoin. Mais la Cour suprême, là, ça rend environ 100 jugements par année. Donc, il y a clairement plus que 100 Canadiens par année qui disent « je m'en vais jusqu'à la Cour suprême ». Mais c'est parce que ce n'est pas évident de se rendre jusqu'à la Cour suprême. Il y a beaucoup de blocs en chemin là, qui peuvent mettre fin à cet exercice.
Donc, si on s'est préparé parce qu'on se représente seul, ça peut être peut-être intéressant à ce moment-ci, après avoir lu la décision, d'aller peut-être voir un avocat ou une avocate pour voir s'il y a possibilité d'aller en appel ou de demander une révision de cette décision-là parce que ce n'est pas du tout les mêmes critères qui s'appliquent, c'est ça?
Oui, puis idéalement, elle y dit avant la première cause,
oui.
Parce que la deuxième, quand vous allez le voir après le jugement, souvent l'avocat va dire « ouais ».
Parce que c'est ça, souvent
lâchez
on s'imagine qu'engager un avocat, c'est un contrat pour tout le long de la procédure, puis on se dit « c'est beaucoup trop cher, moi je ne peux pas me permettre ça ». Mais est-ce que c'est possible, des fois, d'aller voir un avocat juste pour une petite question de « ah, oh, je ne sais pas exactement, je ne suis pas certain, je ne suis pas certaine ».
Bien, c'est un peu ma job. où je travaille au Centre de justice de proximité. Les gens peuvent venir nous rencontrer sans rendez-vous du lundi au jeudi gratuitement pour répondre à des questions. On ne fait pas la promotion parce qu'on sait qu'on serait débordé, malheureusement. Mais maintenant, vous qui écoutez, bien, vous le savez. Donc,
vous êtes dans le secret.
Vous êtes dans le secret. Mais oui, donc c'est possible. Aussi, il y a des avocats qui sont prêts à répondre, à donner ce qu'on appelle un avis juridique, dire ben dans telle situation, je pense, pour telle raison, vous avez telle chance que telle chose arrive.
Donc, on a fait un bon bout de chemin. Avant de se quitter, David, j'aimerais te demander qu'est-ce qu'on devrait retenir absolument du droit du logement?
Bien, s'il y a dans le fond, dans mes cours de droit du logement, j'aime dire dans une phrase, le droit du logement, ça se résume à c'est le droit de rester en échange d'un loyer, ou pay to stay en anglais. Donc, quand on est confronté en tant que locataire à un proprio qui veut qu'on parte, notre premier réflexe devrait toujours être comme sonnette d'alarme, parce que le droit du logement au Québec est fondé sur cette idée de le droit de rester. Donc, trop souvent, des personnes moins honnêtes, il y a plein de propriétaires super corrects, mais il y en a d'autres qui ne sont vraiment pas. Et ils vont utiliser toutes les stratégies pour faire en sorte qu'une personne donne son propre accord pour partir, que ça soit tout ce qui est mettre une pression indue. Tu as besoin de prendre une décision aujourd'hui, tu n'as pas de choix. Donc, il faut vraiment garder à l'esprit, vous avez le droit de rester dans votre logement, sauf exception. On a des exceptions, mais informez-vous parce que on le sait, en ce moment, c'est pas facile de trouver un logement, donc il faut pas renoncer à ce droit-là sans s'informer à l'avance.
Donc, on peut rester dans les lieux parce qu'on a payé pour y être.
Exactement.
Ben merci vraiment beaucoup, David. J'espère que les gens qui nous écoutent en ce moment et qui sont dans une de ces étapes-là, que ce soit au début d'un conflit ou au stade de la décision du tribunal, sont un peu plus outillés, se sentent un peu moins seuls. C'est maintenant la fin de cet épisode. On était ensemble à la cour. Et pour plus d'informations, on vous invite à aller nous consulter sur le site web d'Hoche Légal. Je suis Camille Lavoir en cours et je vous souhaite une bonne journée.